Imaginons un état de départ de l'économie où il y a du chômage. Ou encore un état de l'économie où un entrepreneur a fait une innovation qui lui permettrait de produire deux fois plus d'une marchandise avec les mêmes employés et un investissement. L'entrepreneur se propose de faire un investissement qui va permettre d'augmenter la production. S'il le finance avec de l'épargne préalablement constituée, alors, par rapport à la situation de référence où il ne ferait rien, l'épargne devrait être plus importante du montant de l'investissement. Et par conséquent, la consommation devrait diminuer d'autant. Ce qui engendrera certes une hausse de la production consécutive au nouvel investissement, mais aussi une baisse de la production ailleurs, puisque la consommation s'adressant aux autres biens va diminuer du montant de l'épargne mobilisée pour financer l'investissement des entrepreneurs. En conséquence, la production totale n'augmentera pas. Dans le premier cas, les chômeurs ne seront pas employés. Et dans le second, la quantité consommée du bien, d'un bien aura augmenté, mais celle des autres aura diminué. Pour éviter cela, il suffit qu'une banque prête à l'entrepreneur le montant de l'investissement. Ainsi, ce montant n'est pas soutiré de l'épargne et par conséquent de la consommation ou des autres investissements. L'entrepreneur dépense le prêt qui lui a été consenti en achat de machines et en salaire, et finalement l'ensemble est distribué dans l'économie sous forme de salaire et de profit du capital et constitue un supplément de pouvoir d'achat. Ce supplément de pouvoir d'achat, issu de la circulation de l'investissement financé par le crédit, éventuellement complété par du crédit à la consommation, doit permettre d'acheter la production nouvellement offerte sur le marché. Doit permettre à l'entrepreneur de rembourser sa banque et l'intérêt que lui demande la banque, et même de dégager un profit supplémentaire pour ses actionnaires si la rentabilité de son investissement est supérieure au crédit, au taux du crédit que lui a consenti la banque. Le pouvoir d'achat supplémentaire créé par le prêt circule ainsi dans l'économie. Il est presque inévitable, cependant, que dans certains secteurs, la production ne soit pas capable de répondre instantanément à l'augmentation de la demande, et que par conséquent, les producteurs en profitent pour augmenter légèrement leur prix au lieu d'augmenter les quantités produites. L'augmentation de pouvoir d'achat provoquée par le prêt et l'investissement se partagera donc dans la réalité en croissance supplémentaire, éventuellement d'ailleurs une croissance qualitative si l'investissement a consisté à améliorer la qualité et non pas la quantité des produits, et c'est très souvent le cas. Donc un peu de croissance et un peu d'inflation, c'est-à-dire d'augmentation du prix de certains produits et qui se traduit par une augmentation du niveau général des prix. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la création monétaire est une condition nécessaire pour que soient réalisés dans une économie l'ensemble des projets qui sont capables de rembourser le prêt qui leur a été consenti. Mais deuxièmement, pour remplir ce rôle, la création monétaire engendre toujours un peu d'inflation. Donc vous voyez que pour qu'un système monétaire finance tous les projets rentables, c'est-à-dire dont la rentabilité avérée va être telle qu'ils peuvent se permettre de rembourser les emprunts et ses intérêts, pour être sûr de financer tous ces projets qui créent de la croissance, qui permettent à l'économie d'atteindre ce qu'on appelle sa croissance potentielle, c'est-à-dire la mobilisation de tout efficace, de tous ses facteurs de production, eh bien, il faut créer suffisamment de monnaie Mais en vérité, on en crée toujours un peu trop si on veut être sûr de financer tous les bons projets. Et ce trop se traduit en inflation. La politique monétaire de la Banque centrale consiste donc à maintenir l'inflation sous un certain seuil et non pas à viser l'inflation zéro. En effet, comme on vient de le dire, sans création monétaire un peu inflationniste, il est probable que tous les projets rentables ne soient pas financés et que par conséquent, l'économie se situe un peu en dessous de son niveau de croissance potentiel, avec par exemple des moyens de production inemployés, dont des hommes, avec du chômage. Cependant, des inflations importantes et surtout non anticipées engendrent un risque de variation des prix relatifs, dont il est assez intuitif de comprendre qu'il va, toutes choses égales par ailleurs, ralentir l'investissement et la croissance. Les industriels, ne sachant pas demain quels seront les prix relatifs de différents biens, cela accroît le risque de tout investissement et donc, toutes choses égales par ailleurs, ça diminue le volume de l'investissement et de la croissance. C'est pourquoi les gouvernements ont fixé comme objectif aux banques centrales de maintenir l'inflation en dessous d'un certain seuil. Aujourd'hui, c'est 2% par an. Si ce seuil n'est pas menacé d'être dépassé, les banques centrales doivent maintenir des taux d'intérêt bas afin de maximiser la croissance économique. Les moyens de cette politique sont simples à définir. On a vu que les banques commerciales sont toutes obligées de se refinancer sur le marché monétaire, dont la banque centrale contrôle le taux d'intérêt. La banque centrale peut donc augmenter ou réduire à zéro, mais pas au-delà, le coût de refinancement des banques commerciales sur le marché monétaire et auprès d'elles. En conséquence, si l'inflation menace de dépasser la barre des 2%, la Banque centrale relève le taux sur le marché monétaire, ce qui conduit les banques commerciales pour maintenir leur marge à relever le taux consenti à leurs clients, ce qui normalement diminue la demande de crédit pour l'investissement et la consommation, et naturellement réciproquement. Si l'inflation est très basse et que la croissance languit, la Banque centrale baisse le coût de refinancement, le taux d'intérêt sur le marché monétaire, le coût de refinancement, ce qui permet aux banques de baisser les taux d'intérêt qu'elles consentent à leurs clients, ce qui peut se traduire par une demande de crédit supérieur pour la consommation ou l'investissement, et par conséquent par une relance de ce qu'on appelle la machine économique. Telle est donc la raison d'être et les moyens de la politique monétaire qui vise à contrôler le volume de monnaie émis par les banques commerciales de manière à s'approcher, si possible, de la croissance maximale dont est capable cette économie.